Alors, nous avons commencé à explorer un peu notre foi chrétienne, ce que Dieu veut nous faire comprendre de lui-même, de qui il est, et sur notre lien à lui. C'est ça qui est finalement important. Nous avons déjà parlé de Dieu le Père, du mystère de la création. Nous avons parlé aussi de Dieu le Fils, Jésus, vrai homme et vrai Dieu, qui nous fait entrer dans sa relation au Père. Alors, il faut maintenant que nous commencions à parler un petit peu de l'Esprit Saint. Nous l'avons déjà évoqué en passant plusieurs fois. Essayons d'aller un petit peu plus directement sur ce sujet de l'Esprit Saint, même si ça ne sera pas le sujet unique, mais c'est la porte d'entrée pour ce soir. Dieu Esprit, l'Esprit de Dieu se manifeste à travers toute l'œuvre de la création, nous l'avons déjà dit, dès les toutes premières lignes de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu, roi en hébreu, le souffle, c'est l'Esprit. Cette image du souffle exprime en fait le lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Le souffle est à la fois quelque chose de réel, de concret, et en même temps insaisissable et invisible. Et pourtant, un corps n'est vivant que s'il y a le souffle de la vie en lui. Donc cette image tout à fait fondamentale du souffle pour dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit à l'œuvre au travers de toute la création. Nous disons qu'il s'est manifesté spécialement, il a parlé par les prophètes, hein, comme nous disons dans le Credo. Avant d'achever sa mission sur terre, Jésus a aussi parlé de l'Esprit Saint. Il y a des passages très longs dans l'évangile de Saint Jean, surtout dans le discours d'adieu de Jésus, où il annonce qu'il va envoyer aux disciples cet Esprit d'une manière nouvelle. Il l'appelle à cette occasion le défenseur, le paraclet, l'autre défenseur, puisque Jésus est le premier défenseur, et l'Esprit Saint va prendre le relais de Jésus dans cette nouvelle étape de la révélation. Cet Esprit va être auprès des disciples et dans les disciples pour les enseigner et les conduire vers la vérité tout entière. Alors cet Esprit est ainsi révélé comme une autre personne divine par rapport à Jésus et à son Père. Nous l'avons déjà dit en parlant de la Trinité. Cet Esprit est pleinement Seigneur. Il donne la vie. Il reçoit gloire et adoration parce qu'il est le vrai Dieu. Ce qui distingue l'Esprit du Père et du Fils, c'est sa relation à eux. Ce qu'on avait dit au sujet de la Trinité. Et on dit qu'il procède du Père et du Fils. Il tient son être du Père et du Fils. Le Saint-Esprit tient son essence et son être à la fois du Père et du Fils, et il procède éternellement de l'un comme de l'autre, comme d'un seul principe et par une seule spiration. J'ai mis un petit peu la définition. Alors, on entend tout de suite qu'il y a des mots un peu techniques, procession, spiration, pour dire que l'Église a cherché des mots spécifiques pour dire quelque chose de tout à fait unique. Hein. Justement, pour dire que l'Esprit Saint, ce n'est pas un deuxième fils. Il y a vraiment un mode de relation qui est différent et qu'il ne faut pas confondre, justement. Hein. Alors, essayons de respecter cette différence, de sentir ce que peut signifier cette différence. Cette spiration, c'est-à-dire qu'il vient à la fois du Père et du Fils dans un seul acte de procession. Il reçoit sa vie du Père et du Fils. Comme une seule respiration, on va dire, hein, finalement. Alors, pour comprendre et sentir qui est l'Esprit Saint, alors il faut surtout accueillir son action. C'est là qu'on peut percevoir, qu'on peut comprendre son rôle. Et je voudrais ce soir plutôt parler justement de son œuvre et en particulier de son chef-d'œuvre qui nous permet de comprendre ce que l'Esprit fait. Alors quel est le rôle de l'Esprit ? Saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous dit Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est donc l'esprit en nous qui nous permet d'entrer dans cette relation de Jésus à son Père. L'entrée dans la connaissance de la foi, dans la vie de la foi, n'est possible que dans l'Esprit Saint. Pour être en contact avec le Christ, il faut être touché par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient au-devant de nous et qui suscite en nous la foi. De par notre baptême, le premier sacrement de la foi, la vie qui a sa source dans le Père et qui nous est offerte par le Fils, cette vie nous est communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint dans l'Église. L'Esprit Saint, par sa grâce, et la grâce c'est l'action de l'Esprit en nous justement, est le premier dans cet ordre de la foi, dans l'éveil de notre foi et dans notre vie nouvelle, cette vie qui consiste à connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors tout comme l'Esprit Saint en Dieu est la communion d'amour du Père et du Fils, nous l'avions déjà dit en parlant de la Trinité, eh bien sa mission dans le monde, c'est de réaliser la communion de la création avec Dieu en l'unissant au Christ. Il a un petit peu le même rôle à l'extérieur par rapport à la création qu'il a à l'intérieur même de Dieu, ce rôle de communion. C'est l'Esprit Saint qui établit la connexion de l'humanité avec Dieu au travers de la personne humaine et divine de Jésus. La grâce, c'est cette vie de Dieu, cette vie qui nous est donnée par l'Esprit Saint et qui est infusée dans notre vie humaine. Alors nous avons déjà dit la dernière fois en parlant de Jésus, nous avons parlé un peu longuement du Christ. Jésus est personnellement rempli de l'Esprit Saint, évidemment il est uni, il est un avec l'Esprit Saint, et il l'est en tant que Messie, ou un, tout à fait, voilà, rempli de l'Esprit. Il l'est aussi en tant que tête du corps de l'Église, et il répand cette onction de l'Esprit Saint dans tous ses membres. C'est au travers de ce corps de l'Église qu'il nous donne cet Esprit Saint pour nous nourrir, nous guérir, pour nous organiser dans nos fonctions mutuelles, pour nous vivifier, pour nous envoyer témoigner, pour nous associer à lui, à son offrande au Père, pour nous associer à sa prière, à son intercession pour le monde entier. Alors cet Esprit que Jésus donne à tous ses membres dans le corps de l'Église, eh bien, il est donné tout spécialement au travers des sacrements de l'Église. Nous avons déjà un petit peu parlé des sacrements au tout début. Ces sacrements qui prolongent cette visibilité de la vie du Christ. Il y a toujours cette importance de la conjonction entre la vie spirituelle, qui est immatérielle, qui est invisible, mais qui doit trouver une conjonction avec notre vie visible, notre vie personnelle et communautaire, et d'où l'importance de ces sacrements qui sont ces signes sensibles où la grâce nous est donnée, où l'Esprit Saint travaille d'une manière visible. L'Esprit Saint qui se rend présent et agissant dans l'Église. Ceci dit, nous avions aussi dit, il y a longtemps maintenant, que l'Esprit Saint travaille aussi au-delà de ces signes visibles, bien sûr. Il travaille certainement beaucoup au-delà des signes visibles, heureusement. C'est lui qui prépare les cœurs et qui les connecte d'une manière mystérieuse au Christ. Mais voilà, pour comprendre vraiment son action et qui il est, eh bien, il s'agit de regarder d'abord ses œuvres visibles. C'est ça qui nous le manifeste plus pleinement. Alors l'Esprit Saint nous connecte au Christ, c'est ça l'idée essentielle. Il nous connecte personnellement mais aussi communautairement au Christ. Et notre vie chrétienne, c'est cette connexion toujours plus intime qui permet à l'Esprit Saint d'exprimer sa grâce en nous et de nous faire grandir dans la sainteté. La sainteté, c'est cette grâce en Dieu qui se développe et qui nous rend à l'image du Christ. Pour contempler l'action de l'Esprit Saint, nous regardons d'abord Jésus. Jésus qui exprime la pleine vocation de l'homme à être en communion avec Dieu, lui qui est uni à Dieu d'une manière tout à fait unique. En reprenant l'image du corps mystique, qui est très utile, nous sommes toujours en lien avec Jésus qui est notre tête. C'est grâce à lui que la vie divine circule en nous. Le modèle de la vie, c'est pour nous Jésus, c'est de regarder vers la tête. Notre but, c'est de ressembler à Jésus. Notre ambition, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Je cite là le célèbre livre de spiritualité du Moyen-Âge, mais qui est toujours à l'ordre du jour, l'imitation de Jésus-Christ, qui est pour nous voilà, le but de notre vie chrétienne. Mais nous avons aussi un miroir complémentaire qui nous permet de comprendre quelle doit être notre relation à Jésus. Car notre vie chrétienne, c'est une réponse à l'amour du Christ. Nous ne sommes pas que dans le corps du Christ, c'est une manière de vivre notre vie spirituelle, mais nous sommes aussi face au Christ, dans une sorte de réciprocité, une relation d'amour réciproque. Le Christ est l'époux de l'Église qui donne sa vie à son épouse par amour. Et c'est Jésus justement qui incarne vraiment d'une manière mystique ce lien d'amour entre Dieu et la création. Cette dimension du lien conjugal ou sponsal, enfin, du lien entre l'humanité et le Christ, bien nous la vivons chacun en particulier. Et l'Église le vit tout entière par rapport au Christ, justement comme épouse du Christ. Et ce mystère, l'Esprit Saint l'a illustré d'une manière tout à fait unique, d'une manière singulière, dans une personne individuelle, c'est la Vierge Marie. Marie qui est la personne individuelle qui est en contact avec tout le mystère de Jésus, en contact avec sa vie humaine tout entière, depuis le premier instant de sa conception, jusqu'à la fin de sa mission sur terre, et encore dans la manifestation de la mission de l'Église au jour de Pentecôte, qui continue cette œuvre de Jésus. Au travers de la vie personnelle de Marie, nous pouvons contempler le visage de l'Église dans son lien avec le Christ. L'Église qui, elle aussi, a reçu justement l'intégralité du mystère du Christ et qui a pour mission de le communiquer, de le déployer dans toute sa vie. Il y a un lien tout spécial entre cette réalité du lien du Christ et de l'Église et la figure de Marie qui va nous manifester ce mystère. Alors Marie, elle a une place justement toute particulière dans la révélation qu'il convient de méditer, surtout en ces jours où nous préparons la fête de Noël. Marie est la femme comblée de grâce, comme le dit Gabriel, l'ange Gabriel, quand il la salue. Et Marie dira dans son cantique, « Tous les âges me diront bienheureuse. » Elle est la bienheureuse Vierge Marie à cause de cette surabondance de grâce. La grâce, nous l'avons dit, c'est l'action de l'Esprit Saint qui met les hommes en communion avec la vie du Christ. Et Marie, justement, va être associée de la manière la plus intime imaginable à Jésus. C'est pour cela que la grâce qui l'entoure est incomparable et unique. Marie est préparée par l'Esprit Saint, remplie par l'Esprit Saint d'une manière spéciale. Car Jésus ne tombe pas du ciel comme une météorite qui vient de n'importe où et qui va n'importe où, n'importe quand. J'avais déjà utilisé cette petite image. Jésus vient dans un terrain longuement préparé. Dans le Credo, nous disons « L'Esprit Saint a parlé par les prophètes ». Et justement, il y a eu toute une histoire au travers duquel l'Esprit Saint a travaillé. Toute la pédagogie divine que l'Esprit Saint a réalisée au cours de l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, toute cette pédagogie trouve son achèvement dans cette petite fille juive. qu'elle fait partie du petit reste d'Israël, des pauvres qui attendent la réalisation des promesses du Seigneur. Son cœur et son esprit ont été pétris par cette tradition juive, grâce à l'éducation de ses parents, évidemment. Marie est la charnière qui permet l'accomplissement de l'ancienne alliance et qui est capable d'intégrer sa transformation dans la nouvelle alliance. Marie est vraiment fille d'Abraham, fille d'Israël, et c'est pour nous particulièrement important, parce que c'est le signe de la réussite de la pédagogie divine dans l'humanité. Un signe important, parce que quand on voit justement que voilà, le Christ a dû assumer en lui un échec par rapport au judaïsme, finalement, aux autorités religieuses, bien, il faut voir d'abord que le judaïsme a réussi en Marie. Et c'est pour nous essentiel de voir que ce que l'Esprit-Saint a travaillé, voilà, a porté le fruit que Dieu attendait et qui était nécessaire pour accueillir le Christ. Marie accueille dans la foi la venue du Messie et elle collabore pleinement à son projet. Alors Marie n'est pas seulement membre du peuple juif, il faut la voir aussi de manière un peu plus large. Elle est aussi face à Dieu comme le représentant de toute l'humanité, puisque c'est elle qui est une vraie et simple créature humaine comme nous. Elle a une place unique, et cette place, nous la sentons tout spécialement au travers du récit de l'Annonciation, quand l'archange Gabriel vient à la rencontre de Marie pour annoncer l'incarnation de Jésus en elle et au travers d'elle par son acceptation. C'est là que Marie va montrer et incarner sa foi, qui est une disponibilité totale et une disponibilité surtout active. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie n'est pas une mère porteuse, passive, mais elle est bien celle qui va donner la vie de manière active et engagée, accompagner la vie et entrer dans cette union à la vie du Messie. Donc dans ce dialogue à l'Annonciation entre Marie et l'ange, eh bien, il y a ce signe de la coopération entre Dieu et l'humanité qui se tisse dans Marie. Car Marie, justement, est humaine, et seulement humaine, comme nous. Donc c'est vraiment entre Dieu et l'humanité. Et là, justement, il y a un parallèle profond à sentir par rapport à l'épisode du premier péché, où finalement ce dialogue entre Dieu et l'homme est un petit peu comme une revanche par rapport au péché d'Ève. Sur la suggestion du serpent, Ève avait douté de la parole divine et avait choisi le mal. L'ange Gabriel vient porter la parole divine que Marie va embrasser dans une pleine liberté. Car le but de la liberté humaine, c'est justement de collaborer pleinement au projet de Dieu. Justement. C'est de ne pas s'opposer, mais d'entrer volontairement dans le dessein de Dieu. Et Marie vient répondre à l'échec d'Ève. Alors ce parallèle nous donne déjà une lumière sur la liberté de Marie par rapport au mal. Pour que cette revanche soit réelle, eh bien, il convenait que Marie soit comme Ève avant la faute, c'est-à-dire dans une liberté humaine qui ne soit pas fragilisée par le péché. Marie a été conçue sans être marquée par le péché originel, ni aucun péché personnel. Elle avait cette même liberté que Ève avant la faute. Alors cette exemption de Marie par rapport au péché n'est pas un miracle qui la sort de notre condition humaine, au contraire, parce que ce n'est pas tout à fait la condition originelle d'Ève. Je vais essayer d'expliquer ça. Parce que Marie est en fait dans la condition humaine telle que Dieu la projette pour l'humanité au terme de l'histoire. Marie faisant bien partie de cette humanité qui est sauvée par le Christ. Elle est en lien avec le Christ et c'est pour cela qu'elle a cette condition humaine nouvelle. C'est à cause des mérites du Christ, c'est grâce au mystère pascal de Jésus, qui viendra plus tard, mais qui viendra, que Marie a reçu cette grâce de liberté par rapport au péché. Comme nous, Marie fait partie des sauvés, mais la grâce du salut lui a été donnée entièrement dans toutes ses dimensions dès sa conception, dès sa création. Elle a été créée comme chacun de nous au moment de sa conception. Alors là, je lis la définition du dogme. La bienheureuse Vierge Marie fut préservée et exempte de toute souillure de la faute originelle dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain. Dans ces phrases, il y a bien cette insistance sur le fait que c'est Jésus qui sauve le genre humain, et c'est à cause de ce mystère, des mérites de Jésus, que Marie est préservée du péché. Il faut entendre cela justement en écho avec ce que saint Paul nous dit du péché et de l'humanité. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains, « Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. » Marie fait partie de cette humanité sauvée par la grâce, sauvée par l'œuvre de Jésus. Quand saint Paul dit « tous les hommes ont péché », en fait, Marie fait partie de tous les hommes, mais elle n'a pas péché, elle n'a pas été touchée personnellement à cause justement de cette grâce du salut qu'elle a reçue d'une manière unique. Elle a expérimenté cette grâce dès sa conception dans le sein de sa mère, comme si elle avait été baptisée dans le sein de sa mère, si on peut dire, mais en assumant toutes les conséquences de ce baptême, toute cette libération du péché. Elle a reçu cette dignité d'enfant de Dieu, pleinement unie à la vie du Christ, en même temps que sa nature humaine. Alors on peut un petit peu mieux comprendre cette particularité, je pense, en faisant de nouveau un parallèle avec Adam et Ève. Donc, vous vous souvenez que saint Paul nous parlait du premier Adam et du second Adam. Le premier Adam qui vient de la terre et qui nous donne la nature humaine. Le deuxième Adam qui vient du ciel, le Christ, et qui nous donne la vie divine. Eh bien, Ève avait reçu, par rapport à Adam, elle avait reçu sa nature humaine à partir d'Adam, littéralement à partir du côté d'Adam. Là, on connaît la côte d'Adam. Dieu avait pris de la chair du côté d'Adam pour former Ève. Eh bien, dans cette nouvelle vie spirituelle, quand nous considérons le nouvel Adam, nous devons voir que Marie reçoit toute sa grâce, toute la vie de sa grâce, de Jésus, le nouvel Adam. Cette grâce qui coule de son côté transpercé, elle vient aussi du côté du nouvel Adam. À la croix, lorsque Jésus a accompli le sacrifice qui nous sauve, son cœur est ouvert par la lance et laisse s'échapper du sang et de l'eau. La tradition chrétienne y a toujours vu le signe de la grâce qui nous est donnée par les sacrements. Toute la vie et la sainteté de l'Église découlent de là. Et c'est vrai un titre tout spécial de Marie, qui est alors présente au pied de la croix. Et c'est alors le moment d'ailleurs le plus crucial, le plus central de son union avec Jésus. Et Marie reçoit toute sa grâce de ce cœur de Jésus. Tout ce que Marie est dans la grâce, elle le reçoit de Jésus. Alors, Marie est la nouvelle Ève. Et c'est elle qui va réaliser finalement la vocation manquée d'Ève, puisque Ève signifie la mère de tous les vivants. Alors Ève a effectivement donné la nature humaine à tous les vivants, mais elle a donné une nature humaine blessée, une vie humaine limitée et blessée par le péché. Marie va vraiment devenir mère de tous les vivants, de ceux qui vivent éternellement, ceux qui reçoivent la vie divine du Christ, cette vie qui va régénérer la vie humaine, qui va la transfigurer. Et ce mystère commence justement à la croix, quand Jésus lui confie l'apôtre Jean. « Femme, voici ton fils. C'est Jean qui devient le premier fils nouveau, mais au travers de lui, c'est finalement tous les disciples du Christ, tous les membres de l'Église qui vont entrer dans cette filiation par rapport à la nouvelle Ève. Dans cette maternité à l'égard de tous, eh bien Marie va manifester justement le visage de l'Église, qui est la mère de laquelle nous recevons la vie divine. C'est l'Église qui nous donne la vie de Jésus, qui est notre mère. Et Marie qui illustre ça de manière singulière. Alors dans ce texte d'ailleurs de la crucifixion, si on lit de près, il y a des choses intéressantes, je vais quand même m'arrêter une seconde. Si nous lisons la traduction littérale, en Saint Jean, nous avons Jésus, alors auprès de lui, Jésus vit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Dans la traduction, nous avons l'habitude d'entendre « il dit à sa mère », mais en fait, dans le texte grec, c'est « il dit à la mère ». C'est-à-dire que quand Saint Jean a écrit ce texte, pour ceux qui l'écoutaient, « la mère », c'était déjà la Vierge Marie, tout le monde le savait. C'était déjà un peu son titre, la mère. Donc ce mystère de la mère est vraiment quelque chose d'essentiel par rapport à Marie. Alors par rapport à la grâce, à la vie spirituelle, à la vie de l'esprit, justement nous pouvons comprendre cette interdépendance entre Jésus, le nouvel Adam, et Marie, la nouvelle Ève. Pour ce qui concerne la nature humaine, la vie humaine, il n'y a bien sûr pas de comparaison à faire par rapport à Adam et Ève, le couple originel. Marie est la mère de Jésus pour manifester justement et pour réaliser le fait qu'elle accompagne et intègre tout le mystère de la vie de Jésus, sa vie humaine et divine, dès le premier moment de sa présence sur terre. Mère de Jésus, Jésus qui est vraiment Dieu fait homme, et l'Église a du coup insisté sur le fait qu'on peut et qu'on doit appeler Marie mère de Dieu. Non pas qu'elle soit la mère de la nature divine, qu'elle précède Dieu ou qu'elle soit au-dessus de Dieu, évidemment, mais pour dire vraiment sa relation unique par rapport au mystère de Dieu incarné. Marie est mère de Dieu et c'est là le cœur de sa vocation, sa plus éminente dignité. Elle a accueilli dans sa vie le mystère de Dieu dans toute sa sainteté, dans sa transcendance. Marie est le lieu où Dieu s'incarne et habite. Alors dans l'Ancienne Alliance, le lieu symbolique de l'habitation de Dieu, c'était le temple de Jérusalem, évidemment. Ce temple qui abritait l'Arche de l'Alliance, l'Arche qui contenait les tables de la loi, surtout, entre autres. Les tables de la loi, c'était la parole de Dieu, gravée sur la pierre, le trésor le plus sacré, finalement, pour Israël. Eh bien, Marie se manifeste comme la nouvelle arche d'alliance, car elle accueille en elle la parole de Dieu incarnée, le Verbe de Dieu fait homme. Je vais juste passer rapidement sur le fait qu'il y a deux passages dans la Bible qui montrent quand même ce mystère de Marie comme arche d'alliance, donc le lieu de la présence de Dieu. Alors, il y a d'abord l'épisode de la Visitation. Je pense que vous connaissez tous cet épisode. Juste après l'Annonciation, Marie va auprès de sa cousine Élisabeth. Et en fait, cette rencontre d'Élisabeth et de Marie va se calquer sur la rencontre de David avec l'Arche d'Alliance. Un épisode qui a lieu dans l'Ancien Testament. Nous voyons le roi David qui danse et qui se met à tressaillir d'allégresse dans la visite de l'Arche. Et qui dit « Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle entrer chez moi ?» Il pose la question. Et dans l'épisode justement du Nouveau Testament, nous voyons Jean-Baptiste tressailler de joie en sentant la visite de Marie, et Élisabeth qui s'écrie « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Cette même question. Dans l'Ancien Testament, cette arche était restée pendant 3 mois chez l'un des serviteurs de David, en fait, chez Obed-Edom, et le Seigneur bénit Obed-Edom ainsi que toute sa maison. Et Marie va également rester 3 mois auprès d'Élisabeth. Et c'est aussi une source de bénédiction pour toute la maisonnée, bien sûr, qui s'achève par la naissance de Jean-Baptiste, puisqu'elle arrive au sixième mois de la grossesse, donc 3 mois, c'est la naissance, avec le miracle de la parole retrouvée pour le père de Zacharie, donc cette source de bénédiction. Donc il y a vraiment cette figure de Marie comme l'arche de la nouvelle alliance. Elle porte Dieu en elle. Alors il y a un autre passage dans la Bible qui fait vraiment ce parallèle entre Marie et l'arche, c'est dans le livre de l'Apocalypse, à la charnière entre les chapitres 11 et 12. Alors on peut rater ce coche justement, comme on peut tourner la page. Il faut se rappeler justement que ces coupures en versets et chapitres, sont assez tardives. Hein. Alors il y a toujours une raison pour couper les textes, évidemment, mais il faut aussi lire le texte dans sa continuité. Alors en fait, à la fin du chapitre 11, nous avons ce verset. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance apparut dans le sanctuaire. Il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Et le verset suivant, je tourne la page. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Donc en fait, il y a une continuité dans ce signe, c'est deux manières de voir ce signe, l'arche d'alliance dans le ciel et cette femme dans le ciel qui va donner naissance au Christ et qui est évidemment la figure de la Vierge Marie, qui est mère du Christ et qui symbolise bien justement ce mystère de l'arche comme signe de la présence de Dieu. Donc, accrochons-nous à ce titre de mère de Dieu, parce qu'elle est vraiment la porteuse de Dieu dans notre monde. Alors, un autre aspect important du mystère de Marie, c'est sa virginité perpétuelle. Nous disons toujours la bienheureuse Vierge Marie, on ne peut pas l'oublier. Marie est vierge avant la conception de Jésus. Nous avons déjà dit, justement, parlant de Jésus, que c'est un signe fort pour dire que Jésus n'a pas d'autre père que Dieu. Il reçoit toute sa nature divine de Dieu, son Père, par l'action de l'Esprit-Saint, et il reçoit toute sa nature humaine de sa mère, Marie, dans un miracle, dans cette conception virginale. Marie est vierge dans l'enfantement, c'est quelque chose qui lui dépasse un petit peu, mais pour dire que cette naissance de Jésus est proprement miraculeuse, car elle n'a pas altéré les aspects physiques de la virginité de Marie. Elle a été préservée des douleurs de l'enfantement, dans la mesure où ces douleurs sont une conséquence du péché d'Ève, qui sont bien notées justement dans la Bible comme une marque, une malédiction, en tout cas une conséquence du péché d'Ève. Et c'est à ce titre justement qu'elle a été préservée et qu'il y a un miracle dans cette virginité de Marie dans l'enfantement. Marie reste vierge aussi après la naissance de Jésus. Elle n'a pas d'enfant naturel avec Joseph. Les frères et sœurs de Jésus qui sont mentionnés ici ou là dans l'Évangile sont des membres de la parenté, plus ou moins proches. Alors cette virginité de Marie, qui est pour nous un fait d'abord historique, concret, réel, évidemment, mais elle trouve son sens dans le fait que Marie est totalement consacrée à Dieu par l'Esprit Saint. Elle est unie à Dieu dans un lien nuptial, sponsal. C'est ce même lien que l'Église vit à l'égard de Dieu au travers du Christ. Saint Paul, quand il parle aux chrétiens de Corinthe, utilise cette image de manière assez forte. Deuxième lettre aux Corinthiens. Je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Quand saint Paul parle de l'Église, même d'une communauté concrète, il parle d'une Vierge qu'il présente au Christ pour une union nuptiale. Alors ce lien, nous aurons tous à l'expérimenter personnellement. Nous sommes tous faits pour cette union à Dieu. Une union qui commence par notre baptême, où nous sommes déjà consacrés à Dieu dans cette union. Une union qui s'accomplira pleinement dans la vie future, au ciel. Certains anticipent cette condition de consécration à Dieu dans la vie religieuse. cette vie qui intègre justement bien la chasteté dans le célibat et qui manifeste cet état de virginité pour le Seigneur. Eh bien, Marie, elle a toute sainte, toute consacrée à Dieu, et justement, signe de cette virginité qui est cette consécration totale à Dieu pour lui être pleinement unie. C'est elle qui est le modèle de consécration pour tous les croyants. Alors, encore quelques mots sur le quatrième et dernier dogme que l'Église a défini concernant la Vierge Marie. C'est le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est pour nous en France une grande fête, hein, c'était la fête patronale de la France, hein, le 15 août, vous savez toujours.
C'était la fête nationale de la guerre.
Oui, et c'était aussi
le calendrier républicain.
Oui, c'est ça, et puis ça allait rester, je crois, parce que c'est aussi l'anniversaire de Napoléon.
Bien sûr, ça, c'est Napoléon. Mais...
Donc, en tout cas, nous avons encore gardé ce jour férié, qui nous permet de le fêter solennellement ici en France. L'Assomption de la Vierge Marie qui nous dit que après sa vie terrestre, eh bien, Marie participe à la condition de son Fils, elle est tout entière dans la gloire, non seulement spirituellement, mais encore aussi. Son corps a été transformé et emporté dans la gloire du Christ. Alors habituellement, on ne dit pas que Marie est ressuscitée, parce que dans le mot ressuscité, il y a l'idée de le fait de passer de la mort à la vie, hein. Et l'Église n'a pas de certitude sur la mort de Marie. Comme la mort est en fait une conséquence naturelle du péché, et qu'on n'a pas d'attestation sûre de comment ça s'est passé, hein, ce passage de Marie dans l'éternité, l'Église ne parle pas de mort. Voilà. Simplement par précaution, de ne pas mettre un mot de trop là où on n'est pas tout à fait sûr. Dans les traditions orientales, on parle de la dormition de Marie. C'est-à-dire qu'elle s'est endormie dans la mort, une mort tellement douce que voilà, ce n'est pas une mort. C'est un petit peu mystérieux. Mais ce qui est pour nous sûr, c'est qu'au terme de sa vie, justement, son corps a été emporté dans la gloire. La définition nous dit justement, l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Voilà, après le cours de sa vie terrestre. Alors, cette Assomption de Marie est en fait l'anticipation de ce qui arrivera à l'Église tout entière à la fin des temps, lorsque nous participerons à la résurrection de Jésus. Quand je parlais la dernière fois de Jésus, je disais que ce qui se passe pour la tête, la destinée de la tête du corps, bien, c'est ce qui va entraîner tout le corps de l'Église. Et bien, cet entraînement à la suite de Jésus, Marie l'a expérimenté dans sa vie personnelle et jusqu'après la fin de sa vie, justement. Elle est déjà totalement dans la gloire de son Fils. Lorsque nous levons les yeux vers elle, nous avons donc une espérance ferme que le projet de Dieu va se réaliser, va arriver au terme pour nous également. Si nous permettons à l'Esprit-Saint de nous transformer, nous aussi, et de nous unir pleinement au Christ selon notre chemin propre, je voulais citer pour terminer un petit peu un passage du catéchisme. Par son adhésion entière à la volonté du Père, à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à toute motion de l'Esprit-Saint, la Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Par là, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle constitue même la réalisation exemplaire, le type de l'Église, cette idée sur laquelle je suis venu souvent. Nous voyons la figure dans l'Église, dans la personne de Marie. Mais son rôle par rapport à l'Église et à toute l'humanité va encore plus loin. Elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Alors, vous avez compris que je vous parlais ce soir de la Vierge Marie. C'était incontournable avant Noël, justement, hein, mais en même temps, Marie est en lien tout particulier avec l'Esprit Saint, hein, qui était aussi à l'ordre du jour, puisque nous avons parlé du Père, du Fils, ben, c'est l'Esprit Saint qui doit continuer de nous conduire, et en même temps, nous avons parlé aussi du mystère de l'Église. Et en fait, ces trois thèmes sont tout à fait indissociables et ils se tressent naturellement ensemble. Marie, l'Esprit Saint et l'Église. Alors, il y a encore tant de choses à dire sur Marie, sur son culte, hein, les dévotions, sur ses apparitions, sur sa place dans notre vie spirituelle. Ces choses que nous pouvons partager ensemble, justement, dans le prolongement de cette introduction. Mais tout cela découle de sa vocation tout à fait unique, de sa collaboration et son intime association à Jésus. Tout vient de là. En ce temps d'avant, nous nous tournons vers elle pour lui demander d'accueillir ce mystère de Jésus dans notre vie, comme elle-même l'a accueilli. Car l'Esprit Saint veut aussi le former dans notre cœur et nous unir à lui. Ainsi, nous pourrons grandir dans notre condition d'enfant de Dieu, dans la communion de toute l'Église.